Plus que quelques heures avant la cérémonie d'ouverture des mini-jeux du Pacifique, près de 1500 athlètes, dont 31 Calédoniens, se sont donné rendez-vous à Palau. Le FLNKS participera bien au sommet sur la Nouvelle-Calédonie annoncé par Emmanuel Macron à l'Élysée à partir du 2 juillet. Les membres du Front étaient réunis en convention hier à Pueblo. Alcide Ponga fait partie des 4 conseillers spéciaux dont s'est entouré le patron des Républicains Bruno Retailleau. Le parti organisait la nuit dernière pour nous son conseil national. À Gaza, la France se dit prête à concourir à la sécurité des distributions alimentaires sur place. C'est le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot qui l'a annoncé. Du rugby, au terme de prolongation, le Stade toulousain est sacré pour la 24e fois champion de France face à l'Union Bordeaux-Bègles. Il s'agit de son 3e titre consécutif. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, les mini-jeux du Pacifique. Le coup d'envoi de cette 12e édition sera donné ce soir.
Suivez les mini-jeux du Pacifique avec Toyota Location. Les mini-jeux du Pacifique, c'est aussi avec le CTOS et ses partenaires, la BNC et Total Energy.
Et Michael Juneski, la délégation calédonienne est donc arrivée à Palau sur le site de la compétition.
Oui, la ville de Koror, ancienne capitale de cet archipel de l'arc micronésien, située au nord de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et à l'est des Philippines, qui sera le théâtre de 10 jours de sport. On rappelle que les mini-jeux du Pacifique existent depuis 1981. Près de 1500 sportifs venus de 24 pays et territoires s'affronteront donc autour de 12 disciplines. Le tir à l'arc, l'athlétisme, le baseball, le softball, le basket 3-3, le judo, le va, la natation, le tennis de table, le triathlon, le volley, beach indoor, l'haltérophilie et la lutte. Alors vous le savez, en raison de la crise insurrectionnelle de 2024 qui a porté un coup aux finances du mouvement sportif calédonien, c'est une délégation restreinte qui sera de la partie cette année avec comme principale ambition une expérience pour préparer les Jeux de Tahiti en 2027. Seuls 31 sportifs calédoniens représenteront donc nos couleurs à travers 7 disciplines. Christophe Dabin, le président du CTOS, a fait le déplacement à cette occasion.
Dans toutes les informations qui nous sont données, tout se passe aujourd'hui extrêmement bien. Nous avons des athlètes qui sont déjà rentrés dans les Jeux, avec des jeunes qui ont bien pris l'importance de ce qu'ils allaient faire dans les jours à venir. Et donc, une ambiance exceptionnelle, parce que chacun sait aujourd'hui que s'ils sont dans cette délégation, ils ont validé leur place. Et ils savent très bien aujourd'hui qu'est-ce que la Calédonie attend de nos athlètes. Donc une très bonne ambiance avec des jeunes extrêmement vigilants et sérieux, respectueux de tout ce qu'il y a autour de nous. Donc tout se prépare pour l'instant dans les meilleurs augures. La première grande journée qui sera la cérémonie d'ouverture.
Christophe Dabin, le président du CTOS. La cérémonie d'ouverture est donc prévue ce soir à 18h heure locale, c'est-à-dire 20h pour nous. Il y a 2 heures de décalage entre les Palau et la Nouvelle-Calédonie. Je rappelle que les porte-drapeaux des Kagous seront le volleyeur Meti Laulaliki, la nageuse Manon Baldovini et l'athlète handisport Tom Lulé. Une cérémonie qui marquera le lancement officiel de ces mini-jeux du Pacifique.
Les mini-jeux du Pacifique vous ont été proposés par Toyota Location. Louez votre Toyota Raize automatique à partir de 3900 francs par jour. Seulement 3900 francs par jour. Toyota Location à Nouméa, Kone et Lifou. Un seul numéro, 24 28 28.
Page spéciale mini-jeux du Pacifique, résultats, réactions. Suivez chaque jour les cagous sur RRB avec le CTOS et ses partenaires, la BNC et Total Energy.
Et l'actualité politique, le FLNKS était réuni hier en convention à Pueblo. Parmi les points à l'ordre du jour, la question de la participation au sommet sur la Nouvelle-Calédonie annoncé par Emmanuel Macron à l'Élysée à partir du 2 juillet prochain. Les représentants du Front seront bien au rendez-vous annoncé par le président de la République, Michael.
Une participation actée devant les responsables des différentes composantes qui étaient présentes hier. Par voie de communiqué, le FLNKS a dressé le bilan des échanges de cette journée. Il ira donc bien à Paris, mais, je cite, constate le manque de clarté de l'État sur le rendez-vous en ce qui concerne le programme, le format et l'ordre du jour. Néanmoins, il participera au sommet pour, je cite encore, l'obtention de la pleine souveraineté par la discussion. Le Front indépendantiste exprime toutefois des conditions avant le sommet parisien. Le FLNKS exhorte l'État à respecter sa parole et reprendre les discussions au stade où elles ont été laissées à Deva. Pour le Front, le projet posé par Manuel Valls, le ministre des Outre-mer, doit constituer le socle des nouvelles négociations et d'ajouter, je cite à nouveau, « aucun échange ne se fera en deçà ». Le projet d'indépendance association proposé par Manuel Valls avait pourtant provoqué l'échec des discussions à Bouraille.
Notez que les travaux de cette convention du FLNKS à Puebo se sont ouverts par la lecture du discours de Christian Théin, désormais sous contrôle judiciaire, mais qui avait été désigné président du Front indépendantiste.
Le FLNKS se félicite de la libération de Christian Théin, le président du mouvement, je cite, dans cette période cruciale de négociation. Christian Théin qui écrit notamment... Les discussions à venir doivent converger vers l'indépendance pleine et entière. Par ailleurs, le FLNKS annonce qu'il participera aussi au forum économique et social en marge du sommet parisien, car la grave crise l'impose. La stabilité politique est un préalable à la stabilité économique et sociale et elle s'obtiendra uniquement dans le processus d'accès à la pleine souveraineté. Fin de citation de ce communiqué du Front indépendantiste.
C'est Didier Leroux qui était vendredi midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Cela faisait très longtemps qu'il ne s'était pas exprimé publiquement dans les médias et il a partagé ses réflexions et ses analyses sur la situation politique et économique de la Nouvelle-Calédonie.
Didier Leroux a été un acteur important de la vie calédonienne puisqu'il a été chef d'entreprise et président de la Fédération patronale, mais aussi élu à la province sud et au Congrès, membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, fondateur et président de l'UNCT et l'un des membres fondateur de l'Avenir Ensemble. Il a aussi été candidat à deux reprises aux élections législatives et c'est un proche du Premier ministre François Bayrou. Il continue à suivre de près l'actualité calédonienne, mais il n'attend rien, dit-il, du sommet qui doit s'ouvrir le 2 juillet à Paris et il n'est même pas sûr qu'il faille un accord.
Je pense qu'un accord ne sert à rien si on n'est pas certain qu'il soit respecté. Or, ce n'est pas un accord qui va empêcher un gamin de 14 ans de mettre le feu à une voiture. Ce n'est pas un accord qui va empêcher une bande de jeunes en déshérence de caillasser des voitures. Donc, je crois qu'on a plusieurs problèmes et que ces problèmes-là ne se résoudront pas forcément par un accord.
Les conditions ne sont pas réunies, selon vous, de toute façon, pour le trouver?
On ne peut pas imaginer construire un pays avec les gens qui cherchent à se venger de ceux avec qui on doit construire.
Didier Leroux a aussi été interrogé sur le projet de souveraineté avec la France, proposé par Manuel Valls. Pour lui, c'est la même chose que le projet d'indépendance association de Pisani.
Pour moi, Manuel Valls est arrivé ici avec un logiciel qui avait 40 ans de retard. Le FLNKS a changé. C'est plus l'émancipation, c'est la réappropriation des terres notamment. Et d'autre part, Manuel Valls, avant de venir, il s'est entouré de mauvais conseillers. Et on peut dire aujourd'hui qu'il ne s'est entouré que d'indépendantistes. Alors on ne peut pas dire que les négociations étaient équilibrées. Il n'y avait qu'un seul groupe qui représentait les non-indépendantistes, qui sont majorité dans le pays, et tous les autres, y compris Calédonie Ensemble et l'Éveil Océanien, étaient favorables à l'indépendance association. Et dans l'indépendance association, c'est surtout le mot indépendance qui compte.
L'autre problème pour Didier Leroux, c'est que Manuel Valls a voulu commencer la négociation par le haut, alors qu'il aurait dû faire comme dans les négociations syndicales.
Dans une négociation avec des syndicats et qui a plusieurs points de revendication, vous commencez par les plus faciles, vous commencez par le bas. Ça permet de décontracter la discussion. Chacun s'exprime, dit ce qu'il veut, on négocie, on arrive à se mettre d'accord sur les points de moindre importance. Et puis ensuite, il reste les points bloquants sur lesquels, là, on peut discuter longtemps. Mais l'ambiance est plus forcément la même. Là, on a un groupement indépendantiste qui arrive en disant « moi, je veux bien discuter, mais la sortie, ça doit obligatoirement être indépendante. » Puis les non-indépendantistes disent « écoutez, il y a eu 3 référendums qui ont dit que les Calédoniens voulaient rester français, donc forcément, on ne peut discuter que de la permanence, du maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France. » Comment voulez-vous que les gens, quand ils commencent une négociation comme ça, comment voulez-vous qu'ils soient capables de s'entendre et puis de passer à la suite? C'est absolument pas possible.
Et quand on lui demande par quoi il fallait commencer, il choisit une image.
Il fallait commencer par la pêche au picot. Il fallait commencer par les choses sur lesquelles on peut se mettre d'accord. Quelle est la date d'ouverture? Quelle est la date de fermeture? La taille minimum des picots? Et puis, on remplit la besace comme ça. Et puis ensuite, on arrive à la fin. Et c'est là qu'on a besoin de garanties pour que tous les points... Il y a la fiscalité, il y a la gouvernance, il y a l'éducation, il y a les programmes scolaires, il y a la santé, il y a la protection sociale. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses dont on peut parler avant d'arriver à indépendance ou pas indépendance.
pour Didier Leroux, il va devoir se mettre d'accord, mais cela va prendre du temps. Il se déclare néanmoins optimiste en relevant que désormais, le combat pour la Nouvelle-Calédonie française se livre sur deux fronts et non plus seulement sur le front entre indépendantistes et partisans de la France.
Il y a un deuxième front qui se joue sur le plan international. La Chine, l'Azerbaïdjan, la Russie ont décidé de s'en prendre à la France et de la déstabiliser sur ses outre-mer. Dans ce jeu-là, la défense de la France est importante et elle dépasse le seul intérêt ou le seul périmètre de la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, on n'est plus seuls, nous les Calédoniens, à défendre la Nouvelle-Calédonie et à défendre la présence française. Parce que la Nouvelle-Calédonie n'est qu'un pion dans un combat qui consiste à combattre pour la grandeur de la France, pour son rayonnement, pour son rang dans le monde, en combattant les pays qui veulent déstabiliser ses outre-mer. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'on n'est plus aussi seul qu'avant. Et que notre combat pour la Nouvelle-Calédonie, c'est pas uniquement un combat gentil canac contre méchant blanc, c'est un combat pour la présence de la France, pour la grandeur de la France, pour le rayonnement de la France et pour le rang de la France dans le monde.
Il y a en métropole des patriotes sur lesquels on peut compter, affirme Didier Leroux, qui évoque notamment les Républicains, le RN et Reconquête. Il s'interroge en revanche sur la position de François Bayrou, dont il estime que le conseiller Éric Thiers semble plus radical que Valls lui-même. Concernant la relance économique, l'ancien patron des patrons calédoniens est formel. Il faut soutenir l'économie sans attendre et il faut donc que tous ceux qui ont les moyens d'injecter de l'argent le fassent. Il dénonce par ailleurs les transferts de compétences excessives et l'excès de règles administratives et appelle de ses voeux une énorme simplification pour soulager les entreprises. Interrogé enfin sur la filière nickel, il regrette le maintien de la doctrine nickel. Il rappelle qu'en 2004, la philosophie, c'était qu'il fallait transformer le minerai localement, mais en 20 ans, dit-il, il y a eu d'énormes changements et nous ne sommes plus rentables.
Aujourd'hui, les usines métallurgiques ne sont pas rentables. Quand on veut transformer du minerai calédonien en mâtes, en ferro-nickel, on perd de l'argent. En revanche, quand on exporte du minerai brut directement vers l'Indonésie, vers la Chine, vers la Corée, le Japon, vers les pays qui le transforment, on gagne de l'argent. On a toujours su faire ça. Au départ, c'était comme ça. On expédiait de la terre, il y avait bien l'usine de la SLN, mais on expédiait de la terre à l'extérieur et on gagnait de l'argent. Et ça reste vrai. Sauf que il y a des gens qui ont la responsabilité sur la réglementation du nickel, qui sont restés sur le logiciel de 2004. Ils disent, oh ben non, il ne faut pas exporter de minerai brut, il faut le transformer local. C'est la doctrine nickel, mais la doctrine nickel, elle était faite pour changer, elle doit évoluer, on n'est pas obligé de rester à la préhistoire tout le temps. Donc, aujourd'hui, on n'a pas évolué, on a des gens qui ne veulent pas qu'on exporte du minerai brut. C'est en train de changer un peu, j'espère que ça va changer. Mais avec ce minerai brut, on peut gagner de l'argent. Et avec l'argent qu'on gagne, on peut subventionner les entreprises déficitaires de manière qu'elles maintiennent les emplois.
Si on exportait du minerai, on pourrait donner les bénéfices de l'exportation des minerais bruts aux usines métallurgiques pour préserver les emplois, explique Didier Leroux, qui affirme qu'il faut mélanger les deux, l'exportation et les usines métallurgiques. Il estime également qu'il a été complètement stupide de refuser le pacte nickel.
Vous pouvez retrouver cette interview de Didier Leroux en audio et vidéo sur le site internet rrb.nc. Elle sera aussi rediffusée dans son intégralité ce soir, juste après notre édition de 17h45. Un salon entièrement consacré au bien-être, c'est à Nouville que ça se déroule. Et depuis hier déjà, des exposants sont regroupés à la Maison des Artisans pour faire connaître du grand public les disciplines traditionnelles et alternatives. Tour d'horizon avec vous, Charlotte Coulson.
Et oui, rien de tel qu'un bon massage pour se détendre. Et ça tombe bien, les professionnels du secteur sont venus proposer leurs services au Salon Équilibre et Bien-être de Nouville. Entre les massages thaïlandais, ayurvédiques ou encore tibétains, il y a un large choix de prestations. Certains visiteurs ont même pu essayer sur place.
J'étais assez tendue depuis hier. En ce moment, je suis assez tendue, donc j'avais besoin de me décontracter. Donc un bon massage épaule-tête de 10 minutes, c'est suffisant. Ça a fait son travail.
Donc moi, je fais des massages à domicile. Je suis spécialisée dans le massage ayurvédique et le massage deep tissu. Donc d'où les diapasons que je vous propose aujourd'hui.
J'adore les massages. C'est des massages et à la fin du massage, elle se sert de diapasons. C'est ce qui m'a intéressée en fait. Ça fait vibrer. Il y a des vibrations qui sont bonnes pour les cellules, le corps. Enfin, j'ai pris une carte.
Et puis pour prendre soin de soi, évidemment il n'y a pas de secret, il faut faire un minimum de sport. La pratique soigne autant le corps que l'esprit et les boutiques consacrées au fitness se multiplient sur le territoire. Certaines sont présentes au salon Équilibre et Bien-être, de quoi ravir les sportifs.
Nous, on a trouvé que les gens n'ont pas arrêté le sport malgré tout ce qui s'est passé en Calédonie. Les gens, pour éviter, je pense, tout ce qui est problème dans la tête, le stress, les choses comme ça, n'ont pas arrêté le sport. Donc nous, on a notre clientèle.
Le sport, ça fait partie du bien-être mental et aussi physique. Je suis très sportive, donc ça m'intéresse.
Moi, de base, je fais déjà un peu de salle de sport. C'est un univers que je connais assez bien. Ici, c'est des produits qui sont un peu plus du bien-être. Les barres chocolatées protéinées étaient à moins 20%, donc on fait plaisir.
Et le salon continue cet après-midi jusqu'à 18h. Le programme complet est à retrouver sur Facebook et sur Instagram.
Je vous rappelle également que la fête du cinéma débarque aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie pendant 4 jours, soit jusqu'au 2 juillet inclus. L'entrée du Ciné City et du cinéma de Dumbéa est à seulement 600 francs. C'est la première fois que cet événement est relayé sur le territoire, donc n'hésitez pas à en profiter. Midi passé de 16 minutes, première pause dans ce journal avant de voir l'actualité nationale et internationale.
Rhume, nez bouché, nez qui coule, stop. Le spray nasal décongestionnant pur essentiel dégage le nez de toute la famille immédiatement. C'est la solution naturelle à l'efficacité cliniquement prouvée. Dispositif médical, dès 3 ans, en pharmacie. Pur essentiel, l'efficacité à l'état pur. Nouveau, pour soulager tout grasse et tout sèche, découvrez les comprimés tout pur essentiel.
Jusqu'au vendredi 25 juillet, gagnez un séjour à l'hôtel Le Stanley. Logez une semaine, ensuite Ilang Ilang. Petit déjeuner inclus pour deux personnes offert par l'hôtel Le Stanley. Un cadeau d'une valeur de 242 200 francs. Pour jouer, c'est facile. Envoyez maintenant chance au 40-20. Tirage au sort le vendredi 25 juillet à 14h. 371 francs le SMS. Profitez d'un endroit calme, proche de la ville, à l'hôtel Le Stanley. L'hôtel vous accueille 7 jours sur 7 dans ses chambres et suites climatisées et tout équipées. Profitez aussi de la piscine, d'une vue imprenable sur le lagon et des petits déjeuners. Toutes les infos et actus sur la page Facebook et Insta de l'hôtel, téléphone 23 23 23. Pour jouer, envoyez chance au 40-20. Sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Exactement, la suite de votre journal avec l'actualité à l'étranger et en métropole, on retrouve Léana Colombo.
Et c'est de la politique. Les Républicains organisaient la nuit dernière pour nous leur conseil national autour de leur nouveau président Bruno Retailleau. Le ministre de l'Intérieur qui refuse toute forme de cacophonie à l'approche des prochaines échéances électorales. Notre mouvement ne doit être ni une caserne ni un McDo avec menu à la carte. Fin de citation. Bruno Retailleau qui a évoqué à nouveau la France des honnêtes gens, une France qui en a marre selon lui.
La France des honnêtes gens, c'est la France qui travaille dur, qui se lève tôt et qui paie cash à chaque fois le prix de l'assistanat. Et la France des honnêtes gens, c'est celle qui en a marre de la disqualification de l'histoire de France, de la pénitence perpétuelle infligée à notre pays. Ils n'en peuvent plus. La France, justement, des honnêtes gens, elle ne salit pas son histoire, elle ne déboulonne pas ses statues, elle ne démolit pas ses gloires. Cette France-là en a vraiment absolument marre qu'on l'accuse d'un pseudo-racisme, un racisme imaginaire, du wokisme. Elle en a marre d'un wokisme victimaire. Cette France des honnêtes gens, c'est la France qui aime la France.
Le ministre de l'Intérieur en a enfin profité pour dévoiler le nouvel organigramme de son parti. Il s'entoure de 13 vice-présidents à la tête des LR, ainsi que d'un bureau politique et d'une commission d'investiture renouvelée. Le maire de Cannes et président de l'Association des maires de France, David Lisnard, fait partie des vice-présidents. Bruno Retailleau s'est également entouré de 4 conseillers spéciaux, parmi lesquels le président du Rassemblement sur le territoire, Alcide Ponga. Alcide Ponga, également président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, fait figure à ce poste aux côtés d'autres personnalités de premier rang sur la scène nationale, telles que l'ancien président du syndicat patronal CGPME, François Asselin. Les LR tiendront un congrès au début du mois de septembre avec plus de 120 adhérents attendus. De la politique également, avec la convention de l'Union nationale rassemblant le Rassemblement national et l'UDR. Ça se tenait la nuit dernière pour nous. Au programme, des ateliers thématiques suivis d'un dîner et d'une soirée dansante dans un hôtel parisien. L'occasion pour les troupes de Marine Le Pen, Jordan Bardella et Éric Ciotti de fêter leur alliance qui s'est constituée au lendemain des élections européennes 2024, soit il y a tout juste un peu plus d'un an, mais aussi d'appeler à se tenir prêt dans l'hypothèse d'un possible retour aux urnes, y compris à la possibilité d'une dissolution. Arthur Delaborde pour Europe 1.
À l'approche du 7 juillet, date à laquelle Emmanuel Macron retrouvera son pouvoir de dissolution, Marine Le Pen appelle son camp à la mobilisation, même si elle parle d'une possibilité, pas d'une probabilité. Elle estime que le devoir de l'Union nationale est de s'y préparer, car, dit-elle, l'histoire ne repassera pas les plats. S'il y a une dissolution, nous devons l'emporter, lance-t-elle. La patronne du Rassemblement national estime que les conditions politiques sont réunies. Pour elle, le président n'a plus prise sur rien, le gouvernement non plus, et tous les deux auraient, selon ses mots, perdu le contrôle. Jordan Bardella partage ce constat. Il juge que l'exécutif est frappé du sceau de l'impuissance et qu'il ne vivra pas très longtemps. Éric Ciotti, de son côté, se veut confiant. Il l'assure, l'Union nationale va gagner et gouverner. Le patron de l'UDR appelle les électeurs à rejoindre son camp qu'il qualifie de celui de l'espoir et du courage.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Jean-Noël Barrot hausse le ton. Interrogé sur la chaîne télévisée LCI, le ministre des Affaires étrangères a exprimé sa colère face au système de distribution militarisée de l'aide humanitaire à Gaza par le gouvernement israélien. Mise en place depuis mars dernier, cette distribution donne en effet lieu à des scènes chaotiques et meurtrières. Il annonce que la France est prête à concourir à la sécurité de cette distribution alimentaire. Écoutez.
En un mois, ce sont 500 personnes qui ont perdu la vie et près de 4000 personnes qui ont été blessées dans des distributions alimentaires, alors qu'ils se pressaient, affamés, pour aller chercher un sac de farine. C'est un scandale, c'est une honte et c'est une atteinte à la dignité de la personne humaine. Et la dignité de la personne humaine n'est jamais négociable. Alors il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse immédiatement. Et la France se tient prête. L'Europe aussi, à concourir à la sécurité des distributions alimentaires.
Nous appelons au cessez-le-feu immédiat et à la libération de tous les otages du Hamas, ainsi qu'à l'accès sans entrave de l'aide humanitaire, a par ailleurs déclaré Jean-Noël Barrot lors de cette interview. Toujours dans le Proche-Orient, à noter que 3 personnes ont été tuées aujourd'hui dans le sud du Liban lors de 2 frappes menées par des drones israéliens. Opération annoncée par le gouvernement libanais et confirmée par l'armée israélienne qui explique avoir ciblé en particulier un terroriste. Midi passé de 22 minutes, seconde pause et on passe au sport.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Attention, plus que quelques jours avant le tirage au sort du million en bons d'achat sur RRB. N'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. Envoyez maintenant RRB au 40-20. Il n'y a pas de liste préétablie. Le ou la gagnante décidera comment dépenser son million. Et puis, il y a toujours 100 000 francs à gagner en bons d'achat. Si vous êtes le 1500e SMS, pile sur le compteur. Alors n'hésitez plus. Envoyez maintenant RRB au 40-20. Chaque SMS compte pour le tirage du million le 4 juillet à 14h. 371 francs par SMS. Règlement du jeu disponible à l'accueil de la radio. Saisissez votre chance. Envoyez RRB au 40-20.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite d'Info Week-end, on retrouve Léana Colombo.
Et retour à l'actualité sportive. Je vous rappelle que nous avons évoqué dès le début de ce journal l'arrivée de la délégation calédonienne sur le site des mini-jeux du Pacifique à Palao. La cérémonie d'ouverture de cette 12e édition des mini-jeux sera à suivre à partir de 20h ce soir pour nous. Sur la scène nationale, le rugby à la une avec la finale du championnat de France et le Stade Toulousain reste champion, Mickaël.
Oui, le Stade Toulousain indétrônable. Une victoire dans cette finale face à l'UBB au bout du suspense. Toulouse a dû s'employer pour conserver son bouclier de Brennus. On disait le double tenant du titre affaibli en l'absence notamment de cadres comme Antoine Dupont ou encore le Calédonien Peato Maovaka. Mais Toulouse a réussi à tenir son rang au bout de prolongation pour s'imposer 39 39 à 33 et signer donc ce triplé historique en top 14. Cette finale de haut niveau a été indécise jusqu'à son terme. À force de courir après le score, l'UBB s'est accroché pour s'offrir cette période additionnelle grâce à une pénalité de Maxime Lucu à la sirène. Le score était alors de 33 partout, 3 essais de part et d'autre et un duel de botteur avec Thomas Ramos à la manœuvre côté toulousain. Et c'est donc lui qui offre le sacre à son équipe avec deux nouvelles pénalités durant la prolongation aux 95e et 100e minutes. Toulouse gagne au passage son 24e sacre de champion de France. Les Toulousains comptaient dans leur rang le Calédonien Rodrigue Néti, titulaire, tout comme chez les Girondins Yoram Moefana, alors que Sipili Falatea est entré en cours de match. Le vice-président de l'URC Dimbéa, père de Yoram Moefana et frère de Sipili Falatea, était tout de même fier de voir à nouveau ses proches au plus haut niveau national. On écoute Taofi Fenoua Falatea.
Je me dis et je le répéterai, je suis chanceux en tout cas d'avoir, là pour le cas, à la finale, des personnes de ma famille, mon frère Sipili et puis mon fils Yoram. Donc on profite de chaque moment. Peu importe, en tout cas, c'est ce que j'ai envoyé comme message hier soir à mon fils, parce qu'on s'envoie des petits messages, mais pour ne pas le perturber, quoi qu'il arrive à l'issue, je sais que les Stade Toulousains sont très très forts sur ces rendez-vous, ils sont durs en tout cas à manier, donc c'est le cas aujourd'hui. Voilà, quoi qu'il arrive, mais qu'il y ait de la frustration, mais on profite en tout cas, parce que c'est pas tous les gens qui peuvent ressentir ces émotions, donc voilà, et on remercie en même temps le ciel pour partager en tout cas ces moments qui sont formidables en même temps.
Et je rappelle que l'Union Bordeaux-Bègles avait déjà gagné cette saison la Champions Cup, mais n'a donc pas réussi à prendre sa revanche après la finale de Top 14 perdue l'année dernière contre ces mêmes Toulousains. Une finale qui marquait la fin de la saison pour les clubs, alors que bon nombre de joueurs préparent désormais une tournée avec le 15 de France en Nouvelle-Zélande.
Et l'actualité du football avec le Mondial des clubs.
Les huitièmes de finale, la qualification déjà des Brésiliens de Palmeiras, tombeurs de leurs compatriotes de Botafogo sur le score de 1-0 dans les prolongations. Chelsea de son côté a battu le Benfica Lisbonne sur le score de 3-1. Demain matin, ce sera l'heure des retrouvailles entre le PSG et Léo Messi. Le Paris Saint-Germain qui affrontera en effet l'Inter Miami, nouvelle équipe de la star argentine. Un match prévu à Atlanta. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 3h, heure de Nouméa. Et puis, dès 7h pour nous, le Bayern Munich retrouvera d'autres Brésiliens, ceux du Flamengo.
On passe au sport mécanique, tout d'abord avec la Formule 1.
Vos stations Shell et Pacific, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
Et Mickaël, le Grand Prix d'Autriche est au menu ce soir.
Lando Norris sur McLaren s'est montré le plus rapide lors des qualifications pour signer la 12e pole position de sa carrière. À ses côtés, sur la première ligne, on retrouvera Charles Leclerc au volant de sa Ferrari, deuxième des qualifications, juste devant l'autre McLaren pilotée par Oscar Piastri. Lewis Hamilton, lui, avec la seconde monoplace de la Scuderia, s'élancera de la 4e place sur la grille de départ. Pour Charles Leclerc, c'est une satisfaction de voir les Ferrari revenir au premier plan.
On faisait que de se plaindre depuis quelques courses qu'on partait 5e, 6e. Au moins, on part 2e demain, donc ça, c'est positif. Après, c'est sûr que quand on voit l'écart, ça fait un petit peu mal parce que l'écart est énorme pour une piste aussi courte que celle-là. On verra déjà demain si on arrive à fermer le gap en course. Je pense que normalement, c'est le cas. Après, je ne sais pas si ça nous mettra au niveau des McLaren parce qu'on les a vus vraiment sur une autre planète depuis le début du week-end. Mais en tout cas, je vais tout faire pour essayer de les mettre en difficulté.
Le meilleur français est Pierre Gasly. Il a signé le 10e temps de référence avec son Alpine. Isaac Hadjar a lui terminé avec le 13e chrono. Esteban Ocon s'élancera pour sa part de la 17e position. La course, le Grand Prix d'Autriche, à suivre ce soir à partir de minuit pour nous.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainée par Shell et Pacifique. Shell, à nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2025. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Les sports mécaniques encore, rallye et MotoGP sont également au programme.
En MotoGP, les pilotes sont aux Pays-Bas. Marc Marquez sur Ducati s'est imposé lors de la Sprint Race. L'Espagnol qui a devancé une fois de plus son frère Alex Marquez et l'Italien Marco Bezzecchi sur Aprilia. Le poleman Fabio Quartararo au guidon de sa Yamaha a chuté à 4 tours de l'arrivée. Le Français avait tout de même réalisé le meilleur chrono des qualifications alors que Juan Zarco, le deuxième tricolore, s'élancera lui de la 12e position. Et puis au championnat du monde des rallyes, l'Estonien Ott Tanak sur Hyundai est largement leader de l'épreuve grecque du championnat du monde avant la dernière journée. Il devance le Français Sébastien Ogier. L'autre tricolore, Adrien Fourmeau, est en troisième position.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. Au Mont d'Or, c'est le 100.4.
Le sport en Calédonie, après 22 heures d'efforts, la backyard s'est terminée ce matin, peu avant 5 heures. Et c'est Jérémy Marie qui remporte cette troisième édition, tout en signant un nouveau record calédonien sur l'hippodrome Henri Millard, Charlotte Coulson.
22 boucles terminées, soit l'équivalent de 147 km parcourus. Il s'agit effectivement du nouveau record, puisque l'ancien était détenu par l'organisateur de l'événement, Stéphane Bourlard, avec 21 tours au compteur. Je rappelle le principe de la course, les participants devait effectuer en une heure le tour de l'hippodrome, soit 6,7 km. Chacun gérait son temps comme il le souhaitait pour être prêt pour le prochain départ, toutes les heures. Celui ou celle qui tenait le plus longtemps remportait donc la course. Et c'est Jérémy Marie, un habitué des podiums, qui a été le dernier en piste. Il a salué l'organisation de l'événement.
Je tenais à remercier toute l'équipe organisatrice, super édition. On a passé de bons moments tout au long de la journée avec des sourires, des encouragements. Il y a eu beaucoup de grosses implications aux bénévoles. Bah notamment toute mon équipe, donc c'était une victoire collective, malgré une épreuve individuelle. Donc merci beaucoup pour cette édition.
Et pour l'organisateur Stéphane Bourlard, la backyard gagne chaque année de plus en plus en popularité sur le territoire.
C'est un très beau succès, tout d'abord parce que l'affluence des coureurs a doublé et aussi parce que le record de Nouvelle-Calédonie a été dépassé avec la performance de Jérémy Marie. Jérémy a été d'une régularité exemplaire pendant toute la course. Il avait l'air de ne pas subir. Il était inarrêtable. Donc vraiment, un grand bravo à lui. Un grand merci à tous les participants qui ont joué le jeu, aux supporters qui sont venus nombreux et surtout aux bénévoles qui ont travaillé d'arrache-pied pour rendre l'événement possible.
Et Jérémy Marie a effectué la 22e boucle seul, comme le veut le principe de la course, son dernier adversaire ayant abandonné à l'issue de la 21e heure de course. Je rappelle qu'ils étaient une centaine de coureurs au départ hier pour cette Backyard 2025, 3e édition.
Et Mickaël Gineski, encore quelques résultats sur le territoire.
Oui, du football, la 6e journée de Super League est dans le groupe A. Tigaspor qui a battu hier Gaïcha sur le score de 2-0. Dans le groupe B, l'AS Magenta s'est imposé sur l'Ossi 1-0. L'AS Cougny a largement battu le CA Saint-Louis 4-0. Enfin, Yengensport s'est repris en battant l'AS Mondor sur le score de 5-1.
Merci Mickaël Gineski. C'est ainsi que se referme ce journal. Il est midi 32. Je vous donne rendez-vous à 13h pour le rappel des titres. Très bon début d'après-midi sur RRB. Yeah.